Tu crois que je voulais te tuer ? À bout de souffle.
Oui, et pourtant non. Si j'étouffe le oui, prompt, le non redit oui. Dis que je crois. Dis-le en sorte d'être toujours cru par le oui. Alors soit, oui. Oui, je te crois. Non m'épuise, oui a de la grâce. Quoi que tu dises, je te crois. Que j'aime dire, oui, je te crois. Quoi que tu dises,
entretien
je te crois.
Que j'aime dire, Olga Messa.
Oui, je te crois.
Chorégraphe. Olga Messa se plonge dans un univers d'évocation, de présence limitrophe et de mémoire. Elle invite et incite à pénétrer dans un espace d'écoute et de perception originelle du corps. Mouvement intuitif, image périphérique ou cachée, espace sonore imperceptible ou non identifiable. Une dramaturgie qui naît d'un système émergent sous la forme d'une écriture aléatoire. Inventaire des espaces et mémoires qui pourraient appartenir à d'autres corps. Corps abandonnés, exilés, violés, disparus, imaginés. Nécessité de déchiffrer les inscriptions d'un passé et de resituer le regard autour de paysages de résistance, de perte et de destruction. Le corps, sous les influences surgissantes d'un mouvement, d'un cri, d'une parole, de la présence d'un animal, totem, d'un tango, poème inventé ou d'une impulsion imprévisible. Tout cela provient du désir de présenter une œuvre scénique expérimentale, sensible à la construction d'un corps en temps réel, à l'écoute de ses sensations les plus immédiates. Tout est et pourrait être vrai. Projection filmique hors champ, lumière-image révélatrice, indirecte et cachée.
Tu crois que je voulais te tuer ?
Crees que quisiste matarte ?
Oui, et pourtant non.
Si, pero no.
Si j'étouffe le oui, prompt,
si estrangulo,
le non si. Redit oui.
Elle no dice si.
Dis que je te crois.
Digo creo. Lo diga en
Dis-le
forma
en sorte
si
d'être toujours cru par le oui. Simple.
Entonces,
alors soit,
si.
Oui,
si te creo.
Oui, quoi que tu dises, je te crois.
Do you think I wanted to kill you?
Yes, and yet no.
If I muffle the yes promptly, the no say yes again. Say I believe, say it has to always be believed by the yes.
Tu crois que je voulais te tuer?
Yes,
oui,
yes.
Et pourtant,
I believe you. No is exhausting me. Yes, as a grace. Whatever you say, I believe you. How I love to say.
¿Crees que quise
yes,
matarte?
I believe you.
Y gustosamente digo, sí, te creo.
Que j'aime dire, oui, je te crois. Tu crois que je voulais te tuer ?
Si, pero no.
Oui, et pourtant non. Si j'étouffe le oui, prompt, le non redit oui. Dis que je crois.
Digo creo.
Dis-le en sorte d'être toujours cru par le oui. Alors soit.
Entonces.
Oui. Dice. Oui, je te crois.
Si, te creo. Te creo.
Non m'épuise.
Alors oui.
Oui, a de la grâce.
Je te crois.
No me cansa.
Quoi que tu
El
dises.
No me cansa, es gracia.
Je te crois.
El si es gracia, le creo todo cuanto dices.
Non m'épuise.
Que j'aime dire.
Oui, a de la grâce.
Oui,
me creo todo cuanto dices.
Te creo.
Quoi que tu dises, je te crois.
Y gustosamente digo.
Voilà la voix de Blanche-Neige.
Te creo.
Dans le soupçon, ce n'est plus elle. C'est un bourreau tout acharné sur soi et sur ceux que l'amour lui livre. Mais si je dis que le soupçon ne dit que mensonge forgé et fielleux, alors là, tu me crois, pas vrai, Blanche-Neige? Oui, avec joie. Ah oui, pourquoi pas? Oui à tout ce que tu dis. Dire oui fait tant de bien et si infiniment doux. Je te crois.
Te creo.
Que j'aime dire, oui, je te crois. Voilà la voix de Blanche-Neige.
En la sospecha es otra.
Dans le soupçon, ce n'est plus elle.
Un verdugo de sí misma.
C'est un bourreau, tout acharné sur soi.
Y de quienes se lo ofrecen en el amor.
Et ce que l'amour lui livre.
Y si digo que es mentira lo que dice la sospecha.
Mais si je dis que le soupçon...
Una loca, imprudente mentira.
Ne dit que mensonge, forgé et fielleux.
Entonces.
Alors là.
Me crees? No, Blancanieves.
Tu me crois, pas vrai, Blanche-Neige?
Si. Y gustosa.
Oui, avec joie. Oui, tu pourrais mentir, bâtir des contes jusqu'au ciel et faire de rudes mensonges palpables, lourdeaux. Je te croirai encore. Oui, il me faut toujours dire oui. Jamais foi si belle ne m'a comblée et jamais confession n'a eu la douceur de ce oui. Dis ce que tu veux, je te crois. Le nom apparaîtra après, pour dire oui. Blackout.
Olga Mesa a présenté à Tours, au festival Danse d'existence, Danse de résistance, sa dernière création, Solo aveugle. Dans ce solo, la chorégraphe poursuit un travail à l'œuvre dans de nombreuses pièces, telles que Le dernier mot, Daisy Planète ou La danse et son double. Avec Olga, le corps est toujours pris dans une danse avec son empreinte, imprimée à la surface d'un écran vidéo. Le corps à l'écran nous revient autre, par fragments, dispersé. L'œil cherche son double, ou plutôt cet espace de disparition, ce moment où la matière vivante est captée par la machine. La narration, elle, s'augmente du dehors, de choses vues et entendu, mais de telle sorte que ce dehors soit suffisamment absent pour qu'un dedans soit encore possible. Entretien avec Olga Messa.
Café le Molière. Café le Molière à Tours, en compagnie de Olga Messa, qui a présenté à Tours un spectacle, un solo, qui s'intitule Solo aveugle. Mm-hmm. Alors, Olga Messa, bonjour.
Bonjour.
Hola. Et tu es présentée comme une chorégraphe et artiste visuelle espagnole.
Espagnole.
Et c'est vrai que dans la plupart de tes spectacles, en tout cas ceux qu'on a vus, que ce soit Daisy Planète, Suite aux derniers mots, mm-hmm. Également La danse et son double,
oui.
Ou celui-ci Solo aveugle, la vidéo mm-hmm. est toujours présente.
Présente, oui.
Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à ton travail.
Oui.
Et de telle sorte, d'ailleurs, que tu travailles aussi dans des structures d'art contemporain, comme le FRAC de Metz,
oui,
où tu as travaillé sur des installations.
Oui.
Alors, peut-être une première question, mm-hmm. c'est comment, à un moment donné, tu es venu à t'interroger sur la caméra et la place de cet outil, de l'écran, dans ton spectacle de danse, dans ton travail plutôt de danseuse.
Mm-hmm. Bueno, c'est une longue histoire, hein, parce que j'ai commencé donc ma création en 92, on dit comme ça, hein, 92, 1992, avec une pièce, un premier solo qui s'intitulait Lugares Intermedios, ça veut dire en anglais Intermediate Place, de lieux entre, comment on pourrait dire, Intermediate Places en français.
Lugares. Les lieux intermédiaires.
Exactement, merci. Et donc, déjà là-bas, la caméra, elle est apparue à ce moment-là pour faire un voyage, un espace naturel, c'était les déserts. À cette époque-là, j'étais encore à New York, où j'ai vécu 3 ans là-bas. Et déjà, cet objet, on va dire, il était présent. Mon souvenir, c'était comme quelque chose déjà très familier pour moi comme objet, la caméra, à niveau de accompagner, de qu'elle est là et n'importe à quel moment elle peut se connecter, elle peut se mettre active comme moi à capter quelque chose. Dans cette situation-là, dans le dessert, un artiste visuel que j'avais contacté là-bas à l'époque, Luis Escartín, il m'a proposé de pourquoi pas, pour m'inspirer après pour rentrer studio à développer cette solo. Et le solo, toujours, le dessert, c'est un espace pour moi intrigant. Déjà parce que j'ai trouvé que c'est un espace métaphysique qui m'a attiré et que c'était vraiment l'espace de regard parce que le dessert, il n'y a rien à voir. Mmh. Et donc, tu regardes, mais c'est vraiment l'espace, la page en blanc, je crois, on peut dire. Et cette caméra, avec lui, c'était lui, il a vraiment placé cette caméra comme un regard à suivre mes promenades. C'était vraiment des actions de le corps dans ce paysage naturel de le dessert très, très simple. Et donc, moi en train de regarder l'espace, moi en train de me promener, tout d'un coup, il y a eu quelques rencontres avec des objets bizarres, parce qu'au dessert, tout d'un coup, tu te trouves des choses, et comme il avait en voiture, et quelque chose, un reste de voiture oxydade, et tout d'un coup, on a capté un peu en séquence de mouvements là-bas. Donc, j'ai activé un peu le corps, mais vraiment, ce n'était pas la danse, c'était plutôt un corps qui se met de l'autre côté. La caméra, c'était déjà un regard, un témoin. C'était l'origine, ça, déjà.
Je me souviens d'un dialogue que tu as avec Larry Beau,
mm-hmm.
qui présentait une pièce visuelle.
Mm-hmm.
Et tu lui demandais,
mm-hmm.
Quand elle filmait, si elle regardait à l'objectif,
oui, parce
ou
que
si elle laissait la caméra avec le geste.
Bon, ça, c'est beaucoup plus années plus tard. Quand je rencontre Larry Beau, on a fait un projet ensemble très, très intéressant. Elle m'a invité en 2005 pour aller à Londres à l'époque pour être opératrice, parce que c'était opératrice de son film, de son installation filmique. Donc un projet qui s'appelle très intéressant Traveling. Elle a invité moi, elle a invité Gilles Jovan, le chorégraphe suisse, elle a invité Eduardo Bonito, qui est producteur à l'époque, pour créer chacun un film autour des contraintes qu'elle nous donnait. Donc c'est une caméra où tu avais une musique et tu rentrais sur un espace et te donnait un peu la scénographie de l'espace où les corps, donc Olga, elle m'a mis sur un jardin en contact avec la terre. Gilles, il était sur un plateau complètement artificiel avec des photos des montagnes suisses. Donc elle donnait les cadres de l'aspect visuel. Et à l'intérieur, tu étais toute seule avec une caméra et tu devais faire une danse autour d'une musique de Carmen de Bizet. Et cette caméra-là, c'était une caméra qui tu regardais pas qu'est-ce que tu fabriquais. C'était vraiment une danse subjective, une caméra complètement subjective où jamais tu pourrais rentrer. C'était une partie de ton corps qui pourrait rentrer dans le cadre, mais pas complètement, jamais ton visage, donc une partie de ton corps en contact avec les promenades de l'espace. Ça, c'était intéressant parce que quand Maria, la ribote, pardon, la ribote, elle m'invite, elle connaissait déjà très bien mon travail avec la caméra. Et finalement, moi, j'avais déjà aussi, dans les années 80, dansé pour elle comme danseuse. À l'époque, à Madrid, et moi, quand elle faisait ses premières pièces. Donc, c'est une caméra... moi, j'avais déjà beaucoup travaillé avec la caméra. Donc, elle a commencé plus tard, si tu veux. Quand elle m'invite à ça, c'était très, très intéressant parce que moi, tout d'un coup, j'ai dit à la ribote, c'est curieux, toi, tu es intéressée à la fabrication de l'image, et par contre moi je suis intéressée à l'extérieur, ça veut dire à regarder quelqu'un qui filme. À ce moment-là, j'avais déjà fait, pas encore On cherche une danse, j'avais fait La suite au dernier mot, et j'ai dit c'est curieux parce qu'à moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment la fabrication de l'image mais le regard de les autres sur l'opérateur. Et j'ai dit Maria, est-ce que tu peux mettre, parce qu'on filmait toute seule, et je voulais déjà mettre moi une caméra, une deuxième caméra ailleurs, pour filmer à moi en train de filmer. C'était très intéressant ça, de voir comment on est intéressé au même sujet, mais avec le point de vue, des regards complètement différents, opposés.
Filmer l'opérateur, c'est présent dans La suite au dernier mot et dans La danse sans double.
Et dans On cherche une danse, déjà ça commençait là. Et On cherche une danse en 2004, Daniel, j'ai décidé d'inviter sur plateau avec moi les musiciens Nilo Gallego, dont les capteurs de son et les capteurs d'image, donc Daniel Miracle, Neokinoc TV. Et j'ai dit, Daniel et Nilo, ça qui m'intéresse, c'est pas écouter, c'est pas voir, je veux que vous fassiez une pratique de captation. Ça m'intéresse la source. Et j'ai dit, on va appeler ça, bon, un peu j'invente des terminologies pour point de départ, un peu toujours d'une manière intuitive, j'ai dit, on va appeler ça la caméra aveugle. Et Daniel, il comprend, mais comment, qu'est-ce que tu veux? On filme ça, mais après on va les montrer les images. Et j'ai dit non, on va commencer pour une création où on est les trois dans un espace, moi je vais être le corps, je ne comprends pas encore comment cadrer cette articulation là, mais ça m'intéresse l'espace des regards, donc ça je crée l'espace corps, toi tu es l'espace regard avec une caméra et toi tu es l'espace d'écoute avec un micro, et ça commence comme ça. On cherche une danse, donc tu vois quelqu'un avec un micro, c'est un peu peut-être caractéristique, mais c'est comme un peu typographique, mais quelqu'un qui registre les sons, on comprend rien, tu vois quelqu'un qui filme, et moi j'essaye de rentrer en relation mais sans donner encore une compréhension. On est en train d'articuler quelque chose quand encore, on ne sait pas très bien comment on va se rencontrer ou on va se croiser. Le public, il disait, on reste frustré parce qu'on attend de voir ce film après. Et moi, j'ai dit, mais bon, moi, je mets en pratique le regard des spectateurs. Peut-être c'est trop exigeant pour les spectateurs d'essayer de qu'ils comprennent, qu'il imagine les cadres possibles qu'il pourrait donner à l'autre cadre que c'est le plateau. Donc, bon, c'est un travail un peu... Bon, on n'a pas l'habitude de ça parce que ça qu'on regarde, c'est ça qu'on cadre, on va dire, non? Et je demande quelque chose de l'invisible, mais finalement, ce n'est pas vrai. C'est de l'invisible, mais le regarder d'une autre manière, peut-être.
Oui, par rapport à Daisy Planet, en fait, on avait vu aussi la question de celui qui filme, mm-hmm. mais avec le point de vue et différents points mm-hmm. de vue. Mm-hmm. Et avec le spectacle qu'on a vu jeudi soir, c'est vrai qu'il y a la question de l'exposition. Quand mm-hmm. est-ce que le corps va s'exposer mm-hmm. et quand est-ce qu'il va être capté? Et ce qui est capté par la caméra ou l'écran n'est qu'une partie du corps qui aurait choisi de laisser son empreinte ici. Et nous, spectateurs, on voit tout ce qui échappe à cette sorte de réceptacle, en fait, qui mm-hmm. absorbe mm-hmm. Le mouvement du corps et la lumière. Et par exemple, dans Daisy Planet, en fait, au moment où la danseuse regarde la caméra, enfin, mm-hmm. regarde
oui.
la caméra.
Oui, dans ce cas, c'est moi, oui.
pour parler. Derrière, en fait, on voit qu'elle fait des gestes, comme si, en fait, on voyait que...
Ça, c'est les chiens contre chiens. C'est très simple. Hein. Tu as les cadres. Un plateau, c'est un cadre, non, finalement. Et là, tu as vraiment les champs contre champs. C'était très intéressant des six planètes parce que je n'avais pas la caméra avec moi et pas le dispositif de Neokino que Daniel a fabriqué, cette caméra sur une balise. Et c'est vraiment une caméra qui donne une image un peu moche, et une caméra de vigilance. Et pendant le processus, je n'avais pas les caméras. J'ai travaillé sans la caméra, mais ce n'était pas nécessaire parce que j'avais déjà le dispositif dans ma tête visuelle. Finalement, je savais que je voulais créer un dédoublement de le corps à cet endroit-là où tu vois à travers une télé une personne qui parle et finalement mon corps, que c'est le corps de le plateau, il est en train de faire sa petite chorégraphie au fond, mais il y a les champs contre champs, tu vois. Donc c'est un dispositif très basique parce que finalement tu mets un point de vue en face de le spectateur tout au fond et à ce moment-là tu dialogues avec toi comme interprète sur le plateau, tu as deux points de vue et pour moi la caméra à cet endroit-là c'est encore un autre spectateur, il est là, il est, ça veut dire mon dialogue avec la caméra c'est vraiment une interface, je peux dire c'est vraiment un filtre que finalement c'est indirect mais que finalement c'est un triangle, non, ça, c'est, là on a une caméra, tu vois, donc finalement je regarde à vous et bon, mais je sais quand je regarde à vous, je suis avec eux, non, donc finalement c'est le triangle, il fait comme ça, non, après bon, là c'était vraiment dans un sens très dans la frontalité des plateaux, non.
Mais justement sur ce champ et contre-champ, parce que est-ce que l'écran il apparaît comme un filtre du
mais
corps,
on parle que... maintenant de pas de Daisy, on parle de solo avec les, non, on, où on est dans quelle pièce on est en général.
En général, okay. Sur ces dispositifs d'image en général avec des systèmes de parce que ce système de champ contre-champ, on l'a aussi dans La Suite aux derniers mots par exemple,
claro.
Où le public est filmé aussi.
Aussi.
Là,
oui.
Là aussi, qui est un processus assez intéressant où le public se voit sur le mur en fait,
parce
qu'il s'est projeté sur le mur.
Oui.
Est-ce que l'écran agit comme un filtre sur le corps? Parce que par exemple, on a dans Daisy Planet ou dans d'autres, dans d'autres dispositifs, dans d'autres spectacles, on a le sentiment qu'à l'écran, on cherche le corps incarné. C'est-à-dire qu'on cherche l'incarnation de ce corps, comme si l'écran pointait vers une absence du corps. Et ça, c'est très étonnant.
Mais c'est très intéressant ça que
une
tu
disparition.
Dis. Une disparition, parce que tu vois le dispositif maintenant de cette solo avec cet écran pas visible à le spectateur. C'est un grand écran. C'est vraiment. Moi, c'est construit ici à Tours. Hein, ce dispositif, il est sorti de l'espace de Tours, de le studio de centre chorégraphique. Quand je suis arrivée là-bas, c'était très fort, le départ de Solo Aveuglé à cet endroit-là. Moi, j'imaginais quelqu'un en train de regarder un film que nous, on ne voyait pas comme spectateur. Et comme dans la salle, tu as vraiment les hors-champs qui disparaissent, tu connais l'espace, vous connaissez bien. Donc déjà, j'ai commencé à créer un dispositif avec les étudiants de l'université. Je leur ai demandé de se mettre là-bas. Donc on a fait deux groupes et j'ai projeté un film. J'avais déjà des images de la guerre qui m'intéressaient, des images. Et j'ai commencé comme ça le dispositif. Et un jour, j'arrive à Jean-Philippe et j'ai dit, Jean-Philippe, est-ce que tu as un miroir? Tu sais, bon, ça c'est peut-être, répond pas à ta question, je me suis perdue un peu, excuse-moi. Je reviens à le dispositif. Les questions de l'écran, il faut dire qu'avec Solo Aveuglé, je suis revenue avec l'objet filmique. Parce que pendant des années, cette caméra, elle était en direct au plateau. Quand j'ai commencé à 92 avec les desserts, j'ai développé une vidéocréation. Et après, à 95, j'ai développé Europass avec Francisco Camacho, qui est venu avec Merck Stuart. Il était invité dans mon film et l'arrivée, elle était dans mon film à 95. À partir de là, à 96, je suis arrêtée avec les films parce que, je pense maintenant, parce que vraiment, c'était tellement compliqué déjà. Me concentrer à une production pour faire réussir à Madrid à l'époque au plateau. Et j'étais tellement intéressée toujours à le plateau, mon espace de travail comme créateur, interprète surtout et après créateur. Et je me dis, la caméra, je l'amène avec moi. Et à partir de 1996 jusqu'à Solo Aveuglé, cette caméra, elle a commencé par Super 8 avec Daniel. Il m'a proposé de filmer moi en train de dormir à Esto no es mi cuerpo. Ceci. Mais après la caméra, et tout d'un coup, on a commencé à l'étendre. Et cette caméra, elle était déjà là et je n'ai jamais développé d'enregistrement. En 2006, quand je viens au FRAC à Metz, j'ai fait un projet très intéressant de commissariat, on dit. Je suis invitée pour commissariat, Béatrice Jos m'invite pour commissariat, faire un expo autour de l'invisible, autour de l'éphémère. C'est une collection de Fracamets. Apparemment, je ne connais pas autant, hein, mais apparemment, j'ai entendu dire que c'est une des collections plus pointues au niveau de la performance en France. Et donc, il y a tout. Il y a même une pièce de la Rivotte, il y a Marina Abramović, il y a, voilà, il y a bon, Marguerite Duras, des films. Il y a beaucoup l'aspect filmique aussi dans les collections. Donc, tout d'un coup, j'étais là pour choisir et créer une expo que j'ai titulée « Pratique des non-visibles », donc solo avec les viennes un peu influencées déjà pour ce travail-là. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait en parallèle, moi, comme une proposition organisée dans mon travail pour développer quelque chose. Et j'ai dit, c'est le moment de revenir au film, peut-être. Mmh. 15 ans après, ou 10 ans après, je ne sais pas combien. J'ai dit, je ne vois pas moi en train de faire mon travail esthétique, mais j'ai dit, c'est le moment. Et à ce moment-là, là, vos films apparaissent. Donc j'ai créé une installation filmique et la deuxième installation filmique c'est solo avec cet écran là. J'étais étonnée de cette caméra solo avec cet écran. Finalement j'ai dit que solo avec je ne suis pas la protagoniste, tu vois, c'est une manière de dire que dans cette solo, déjà même s'il a l'aspect toujours un peu autobiographique, Olga Messa, blablabla, je sens que c'est encore une mémoire qui essaye, dans tout cas, que j'essaye, dans tout cas, de me mettre en liaison avec déjà mon grand-père qui m'inspirait pour le tango à l'Argentine et tout ça. Mais aller, bon, un regard sur la Seconde Guerre mondiale, il y a eu différentes références. Les codes secrets appartiennent à Port Berlin pour les codes secrets à la radio. Donc, il avait le poème de Port Levin, tu sais, les sanglots longs des violons d'automne, blesse mon cœur. Il a eu une anecdote que s'est trompé le messieurs à la radio. Il a dit pas berce mon cœur, il a dit blesse mon cœur. Et donc, ça, c'est les codes secrets et cet intérêt pour intégrer des histoires en dedans des histoires, ça vient déjà de la pratique à Metz avec mon camarade. Avec la caméra, bon, mon camarade, la caméra. Donc, quand le dispositif de le miroir apparaît et cet écran, c'était très fort parce que j'ai vu le dispositif et c'était comme si je voyais tout le travail que j'ai fait pendant des années derrière à niveau de ce corps que tu dis dans les plateaux, que c'est encore réel, mais c'est comme la disparition, c'est comme encore aussi virtuel. Et dans ce label aussi, j'ai dit, je me sens un peu encore écran. Je suis là, je regarde, je parle, je fais des choses et même les moments que je regarde, c'est étrange. Mais étrange dans le sens que je suis avec vous comme spectateur, mais je pourrais être dans un film. C'est une manière d'interpréter, de donner une interprétation à ma manière de cette présence qu'il est là et que c'est très lié quand je disparais dans l'écran, par exemple. Bon, c'est un peu, c'est pas trop cash, mais bon, c'est un espace réel qui existe dans en fabrication d'espace, dans les plateaux, mais que finalement, c'est la chèvre, tu vois, quand je suis là, chaque fois que je fais ça, c'est très simple, mais chaque fois, c'est un champ contre champ, mais finalement, le contre champ, c'est le miroir avec l'écran, et vous êtes là, on revient à le triangle, caméra, projection, spectateur, et tout d'un coup, c'est encore une fois, je me trouve, et j'ai dit, mais Olga, je me trouve sur un mémoire de cet espace que je travaille avec différentes pièces que vous venez de nommer, et que tout d'un coup, je m'étonne, parce que même moi, en dedans de cet espace au plateau, je pourrais disparaître, je me dis, je pourrais être ailleurs, ou je pourrais être dans un film. Pourquoi
mais parfois d'ailleurs tu disparais réellement puisque tu vas légèrement sur la droite qui fait que tu es en hors champ complet nous de notre vision mais tu es encore présente à l'écran.
Claro, tu viens de dire le mot hors champ. C'est très curieux parce que j'ai appelé mon association, bon, depuis quand je suis restée à Strasbourg à vivre et je suis déménagée, j'ai créé une association pour le boulot pour pouvoir continuer à développer mes projets en France et je l'ai appelé hors champ. Fuera de campo, hors champ, fuera de campo. Et l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a une association aussi qui s'appelle hors champ, que c'est la copine de Frédéric qui a fait la lumière pour...
Pour Tal.
D'accord. Oui, et on était le soir à l'hôtel, on a discuté un peu, c'était très intéressant. Et on s'est demandé, une à l'autre, les metteurs en scène, excusez-moi, je ne me rappelle pas son prénom, elle parle espagnol, et j'ai dit... Mais pourquoi on appelait hors champ à notre projet ? Et tout d'un coup, voilà, le cinéma arrive comme un intérêt très, très fort de tout ça qui échappe au cadre, tout ça qui n'est pas de l'ordre de la vision dans le sens direct, dans le sens de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on écoute. Finalement aussi, tout ce rapport entre la vision, entre l'écoute, tu vois, pour moi, c'est quelque chose... qui toujours m'a fascinée, et surtout depuis quelques années quand j'ai rencontré la filmographie de Godard, ou à partir de Godard, il y a déjà quelques années, mais j'étais fascinée comme l'expérimentation vraiment de la narration visuelle par rapport à l'image, par rapport à les espaces entre eux qui fait. Et donc dans le cinéma, on a vraiment des pistes de narration expérimentale magnifiques. Mais je trouve vraiment, pour moi, très stimulante et très inspiratrice. Et quelque part, de plus en plus, je me demande cette narration cinématographique sur un plateau. Comment elle est. Mais bon, voilà.
Bien sûr, il y a le hors-champ, il y a ce qui nous revient. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est comment, en fait, l'utilisation du miroir ou de la caméra mm-hmm. vient créer un trouble perceptif. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qu'on voit est déjà de l'autre. Ce n'est plus du même. Et quand tu te regardes... Alors, bon, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la mythologie, mais en plus... Tu dis métamorphose à la fin, qui m'ont fait beaucoup penser aux métamorphoses ovides. Et quand tu te regardes dans le miroir, en plus avec le petit masque de chèvre, c'est toujours soit un écho qui revient en différé, soit c'est Narcisse qui se regarde et qui voit un autre, donc qui une sorte de dédoublement, et il y a une impossibilité de cohabiter en fait dans un seul corps. C'est toujours
c'est intéressant,
en fait,
ça,
différé. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup le mythe éco-narcisse. Et après, bon, peut-être ce petit masque de chèvre, pourquoi est-il apparu? Je me suis demandé, est-ce que ça continue à être dans la mythologie où c'est Adonis qui aurait vu Diane? Et en punition, parce qu'il a vu, il s'est transformé, il était transformé en animal et mangé par sa meute de chiens. Donc je voulais savoir s'il y avait tout un processus comme ça.
Écoute, c'est intéressant ça que tu dis, parce que dans différentes pièces, des gens autour de moi me sont donné des références, tu vois, liées à la mythologie, qui au départ, ils sont pas le point de départ. Ça veut dire que j'ai construit la mythologie sans... être consciente de la mille. Mais quand c'est très simple, cet masque de chèvre. J'avais eu une pensée, parce que ce n'est pas une image. Moi, je ne suis pas trop visuelle dans l'imaginer les choses. Je suis plus dans la pensée, je crois. Et après, l'image, elle apparaît, c'est comme une prolongation de la pensée, tu vois. Mais j'avais la réflexion, en tout cas, un peu naïf peut-être, mais. Déjà à 2016, j'ai travaillé autour de Chris Marker, autour du film de la GT avec Sarah et Aude.
La danse est sans double.
La danse est sans double, vous vous rappelez.
Oui,
et donc, déjà, j'étais étonnée. C'était script de Chris Marker autour d'une troisième guerre mondiale de fiction. J'étais étonnée déjà, j'ai dit, bon, parler d'une guerre en fiction, tu vois, le thème de la guerre, c'est un thème qui est très dans mon subconscience, dans mon inconscience. Donc, jamais j'ai vécu une guerre. On vit dans ce monde où il y a des guerres, que nous, on est ici en Europe, on est loin. Ça continue, ça se reproduit, ça ne va pas finir. On va sur un futur incertain par rapport à beaucoup de thématiques, parce que moi, je suis toujours très étonnée. On parle d'une économie, d'une crise économique aujourd'hui. Et quand on devrait imaginer l'argent qui va à toutes les évolutions des bombes atomiques et tout ça, que ça continue. Et moi, j'étais toujours touchée pour un film, Hiroshima, mon amour, qui est toujours avec moi, d'Alain Resnais, et cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, je pense, et le nazisme. Tout ça, ça reste très, même de loin, non, bien sûr, mais elle est très présente. J'ai grandi, j'ai vieilli, et ça continue à être. Et cette envie de s'approcher à cet espace de la guerre, avec la poétique, avec mon univers privé, intime. Et j'ai décidé. J'écris des fois et j'ai dit, si un jour, entre nous, nous, dans notre génération, il y a impossible de cette troisième guerre et tout va disparaître, qu'est-ce que tu aimerais voir? Donc, vous voyez dans le film de Le Miroir, il y a l'image d'Hiroshima avec les arbres que j'arrive jamais à les nommer, j'ai oublié les arbres qui résistent à la bombe atomique. Non, la nature morte qui apparaît dans le miroir. Donc, la nature vivante, c'est un arbre à moi que mon grand-père m'a offert en Asturie, c'est une cerisière. Donc, on voit un arbre, bon, ça, le public ne savent pas, mais je suis allée filmer un petit cet arbre qui existe encore, Asturie, et la nature morte, c'est Hiroshima. Et donc, j'ai imaginé, j'ai vu cette image d'archives de la bombe atomique d'Hiroshima, donc j'ai rencontré quelqu'un magnifique ici à Tours qui m'aidait beaucoup à voir des images. C'est Jean Gabriel, le cinéaste qui habite ici. Jean Gabriel Pierrot. C'est Laurent Barret qui m'a présenté. Jean Gabriel s'appelle. Il est cinéaste. Bon, Jean Gabriel, il a fait un film magnifique. Il travaille un peu vers l'animation. C'est une narration que je connais moins, tout ça, que c'est le cinéma animation. Mais j'ai trouvé son travail magnifique. Il était au Japon. Il m'a parlé beaucoup d'Hiroshima. Il m'a fait connaître des autres films faits autour de la bombe atomique. Et donc, moi, très simplement, j'essayais de... Qu'est-ce que j'aimerais voir dans un paysage comme ça? C'est la première fois que ça m'arrive dans ce cadre, comme un film. Et j'ai dit, c'est un animal. J'aimerais la vie qui renaître et c'est un animal. Et j'ai pensé à la chèvre. Et après, je me renseignais un peu dans la mythologie, bien sûr, qu'est-ce que c'était la chèvre. Mais si tu veux, il est venu quand même, cette masque que j'ai vue, cette masque d'enfant. J'aime beaucoup cette masque aussi. Elle est petite, c'est pour un enfant. Elle est en plastique, elle n'est pas... Et tout d'un coup, cet objet anodin, quand je l'ai vu sur la lumière du projecteur, c'était, tu vois, tu fabriques un masque très bon et tout ça, mais c'était le contact de les plastiques moches aussi déjà avec cette lumière, que ce n'est pas lumière projecteur, c'est lumière vidéo. Et c'était la magie, tu vois, et tout d'un coup, la magie, elle apparaît, où tu ne sais pas où elle est, tu ne sais pas, toujours, et tout de suite, elle est là. La chèvre, pour moi, c'est un regard sur la liberté, non? La mythologie de cette cornue, cette cornue qui, en plus, voilà, elle, mon corps, il est comme ça, très visible. Non? C'est incroyable parce que quand j'aime de sa vie, ce n'est pas seulement la configuration de mon corps, mais c'est vrai que c'est comme une... Je sens le volume de mon corps, tu sais, et quand je vois cette chèvre petite, cette miroir petite, le volume de mon corps et cette image... des multitudes, qu'on ne voit pas, que c'est petite, mais c'est beaucoup de monde. C'est des images d'archives, tu vois, de la seconde. Bon, il y a Pasolini, donc il y a, très intéressant, les films Uccellini, Uccellati,
avec
Pasolini.
L'oiseau.
Oui, les corbeaux, l'histoire des corbeaux, oui. L'idéologie avec Ninetto et tout. Oui. Vous connaissez cette
film? C'est un film très peu connu de Pasolini.
C'est très peu connu, mais parce que tout le monde... dit Pasolini, j'ai dit Uccellini, je ne sais pas dire Uccellini, Uccellati, et j'ai dit attends, les gens qui même connaissent Pasolini ne connaissent pas ce film où ils ont entendu parler. Donc on revient sur la narration, et le hors-champ, il n'est pas seulement de l'ordre de l'image, il est de l'ordre de la narration à l'intérieur de l'écriture, tu vois, parce que Pasolini, quand il raconte son film d'Uccellini, Uccellati, à un moment donné il coupe, il y a un camarade qui rentre à Roma dans un enterrement, quelqu'un qui est mort. C'est une énorme manifestation et apparemment, c'était quelqu'un assassiné dans le Parti communiste à les années 60. J'ai dit quelqu'un, excusez-moi, je n'ai pas gardé les personnes. Et donc, tu te demandes si ça, c'est vraiment Pasolini qui l'a filmé ou si c'est des films d'archives. Parce que c'est très curieux, parce que la manière où cette caméra voyage, elle a le regard de ce cadre... ça pourrait être une continuation de la fiction de Pasolini et moi j'essaie de savoir, mais tu vois déjà on a un hors-champ, le hors-champ il n'est pas seulement ailleurs, le hors-champ c'est qu'on rentre une autre matière en dedans d'une matière, donc en dedans d'une narration, et cette matière dialogue, mais elle est extérieure, donc c'est la fiction avec les documentaires, là qui se rencontrent, tu vois, donc... Pour moi, tout cet aspect de le cadre, le cadre, ce n'est pas seulement de l'ordre de l'invisible, c'est de l'ordre de la narration. Et dans Solo à Bègle, je me suis surpris comment j'ai laissé une liberté, peut-être pas évident pour le public de suivre cette narration, mais dans tout cas, je n'avais pas le choix. Je me trouvais sur un processus où vraiment il y avait la fragmentation partout, au niveau de la narration, et où j'ai vraiment, voilà, c'était très riche. Et j'espère que pour le public, voilà, il arrive quand même à s'accrocher parce que c'est pas évident. J'imagine que tu sais pas les sources d'où il vient, et en plus je ne donne pas toutes les références, et en plus j'ai fait que ouvrir une porte. Mais je ne rentre pas complètement. C'est des portes qui s'ouvrent. Et c'est des histoires nommées ou pas nommées qui sont là. Et qui... Mais les hors-champs, c'est pour moi, tout ce travail de la caméra et de l'image, ça fait du sens si ça me fait avancer sur la conception ou la compréhension d'une narration des corps dans l'espace, tu vois, de la présence. Et donc finalement, même s'il y a des visuels qui apparaissent, c'est comme une prolongation, c'est comme une conséquence, tu vois. C'est pas que je travaille avec la caméra, elle est là. J'écris, je me déplace dans l'espace, j'imagine des choses, de plus en plus, cette cadre de la caméra, elle prend plus de compréhension pour moi. C'est comme déjà une autre, voilà, je ne sais pas dire, mais un autre corps, non, mais. Mais après, c'est très simple aussi, le dispositif. Après, la surprise, pour moi, c'est la complicité du dispositif à partir d'une chose très simple. Ça, c'est ma surprise. Je le trouve après, ça, tu vois. Mais pas trop conscience au départ, je veux dire. C'est assez intuitif aussi. Pas trop... Tu vois, je commence pour mettre déjà avec les étudiants, j'ai dit de se mettre... On fait deux groupes, un groupe spectateur, un groupe sur le plateau, et vous regardez en hors-champ une lumière. Et on a un film à projeter. J'ai commencé comme ça. Après, les miroirs apparaissent plus tard. Donc, tu vois, c'est quand même un processus de cet espace où d'abord, avant de rentrer en dialogue avec la caméra, c'est le corps, d'abord, jusqu'à présent, dans tout cas.
Puis cette histoire aussi de comment, à l'intérieur de la narration, il peut y avoir du hors-champ. Et
claro.
Dans l'Arabia, par exemple.
En l'Arabia.
Où là, on a un texte de Pasolini et il va chercher uniquement des images. Il n'y a aucune image qu'il filme dans l'Arabia, c'est uniquement des images qu'il va chercher dans des fonds d'archives.
Il va agencer
sur un texte, lui écrit, et là, à un moment donné, le documentaire rentre là dans sa fiction. Quoi. Et c'est des images extérieures, hors champ,
C'est très intéressant, tous ces gens de cinéma, comme ils ont travaillé la narration, parce que tu vois, il y a tout un travail de mémoire et d'archives qui rentre dans la narration que je trouve. Bon, je suis en train de découvrir dans ma manière aussi de tu vois, déjà en solo avec, je me trouvais dans un travail de captation d'archives. Mais comment cet archive, il fait partie, c'est pas seulement pour nourrir une idée ou pour nourrir une mise en scène. Non, l'archive, c'est un corps qui existe dans l'espace de l'écorce aussi de on va dire performatif, non, il est comment tu amènes avec toi dans la fabrication, comment ça prend vraiment un dialogue, un vrai dialogue avec l'écorce, avec la présence. C'est une chose très, pour moi, dans tout cas, très riche, très stimulante. Et dans Solo avec, j'ai vécu quand même un processus à cet endroit là je pense que depuis le projet à mettre au Musée d'art contemporain, où j'ai fait vraiment un travail d'archives, ça veut dire, mais des voyages, pas seulement de te laisser aussi comment, elle est où l'histoire? Godard, il dit, l'histoire, elle est où? Où elle commence, où elle continue, et finalement, tous les rapports, c'est un peu comme un rhizome.
Rhizome.
Tu commences là, et tout d'un coup, l'histoire, et après, tu vois, toi, tu vas faire un autre chemin. Et donc, à Sol avec, je me posais pour première fois au niveau de la narration la question de l'aléatoire. Je me posais pour première fois comment l'histoire, elle peut vraiment avoir des ports différents et que c'est pas qu'une que tu prends. Tu vois, c'est une question qui, j'espère pour le futur, si j'arrive à développer plus, ça m'intéresse beaucoup. Cette écriture aléatoire, c'est pas l'improvisation, c'est l'aléatoire. En dedans de la durée, de la temporalité, tu vois, il y a quelque chose là, j'arrive pas à exprimer mieux, mais intéressante. Et qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
Cet aléatoire, c'était ce que tu avais mis en place avec le plateau télévision
Un peu déjà ça, mais ça, c'est le projet de Neo Kino TV que j'étais très intéressée cette conception de la narration, que vraiment on n'a pas une lecture et que on n'a pas, c'est le spectateur qui va choisir sa propre narration et que tu offres des possibilités et lui chacun va prendre une. Il y a eu quelqu'un hier, je pense que c'est le directeur de théâtre de Malraux, le monsieur Jean-Louis Dumont, voilà, on a parlé un petit peu, il est venu à voir comme vous, j'ai dit, je crois. Et il me disait, claro, dans ce que j'ai vu de ton travail, Olga, il me dit, chaque spectateur a la possibilité de voir déjà dans les miroirs, ça dépend où tu es assis, oui. C'est la impossibilité de voir les mêmes choses. Mais en plus, de ça que tu, de manière de raconter, chacun. Et moi, je l'écoutais, j'ai dit, c'est trop la dispersion, parce que je parle beaucoup d'un mot dispersion actuellement dans mon travail. Ça m'intéresse la dispersion, mais pas pour être dans la dispersion. C'est comme un processus pour moi nécessaire pour arriver, je ne sais pas où exactement, mais pour peut-être cet espace, avoir l'autonomie. Je parle beaucoup avec mon collaborateur de son de l'autonomie des éléments qui existent dans les plateaux. En autonomie, même si après on va en parallèle ensemble, elle a un début, un milieu et un supposto final.
Dans le spectacle, il y a une très très belle phrase qui revient. Je pense souvent à mon corps, espace de disparition.
Attiré par les espaces de disparition.
Et j'ai l'impression en fait que ce corps devient lui-même un espace où il perçoit qu'il peut disparaître. Et en même temps, il perçoit que quelque chose s'est marqué dessus, qu'il a hérité de traces, d'histoires, de choses qui l'ont fabriqué, modulé. Donc c'est vrai que le corps passe par des scènes où c'est dans le noir, où on ne le perçoit plus, mais on entend sa chute, on entend sa respiration, on entend son cri. Puis, des fois, on voit le corps et on le voit cette fois-ci avec les images qui défilent. Donc, on ne voit plus le corps de la même façon.
Mais,
mais avec quelque chose, comme si quelque chose avait été écrit en lui.
Alors là, c'est déjà un regard que tu me parles très intéressant pour moi, déjà plus large. C'est le point de vue de le spectateur, que toi, il y a quand même une partie déjà à ce regard-là qu'à moi m'échappe. La totalité de l'ensemble de l'extérieur, je n'ai pas conscience de tous les... Je n'arrive pas non plus à attraper... je n'essaye pas non plus d'attraper tout cette,
les points de vue.
Tous les, voilà. Ça veut dire que quand je dis je me sens attirée par les espaces de disparition, quelque part, pour moi, je travaille pas mal avec les paradoxes, je crois, parce que cette idée de disparition, on pourrait dire peut-être que c'est pas parler dans le sens de je disparaître, je questionne, c'est comment j'ai apparaître, ou comment j'ai peut-être, c'est ça l'intérêt. Tu questionnes la disparition pour resituer la question dans une nouvelle question, que c'est comment. Et donc, peut-être la question, c'est de que cette apparition, elle est d'une autre manière. Ça veut dire qu'on a un point de vue de quelque chose et toi, tu te déplaces un peu pour essayer peut-être d'ouvrir un espace qui existe déjà. Et ce n'est pas que tu l'inventes, mais qu'on ne le voit pas et que tout d'un coup, tu fais simplement un décalage. Bon, j'ai fait un mouvement comme ça, mais tu fais un décalage comme ça et tout d'un coup, il y a un point de vue là où il y a quelque chose qui apparaît. Que si tu restes fixe ou tu restes sur une conception de l'invisible, on va dire familière. Donc c'est un peu le détournage, tu vois, il y a quelque chose de
détournement.
La signification
qui est déviée. Oui.
Desviado, claro, indirect, claro. Donc tu vois, la question de la disparition, c'est pas, on part pas de la quand je dis blackout aussi, c'est pas pour être dans la aveugle. C'est pas pour être aveugle. L'aveugle, c'est pas rien voir. L'aveugle, c'est aussi rentrer dans le noir et qu'est-ce qu'on voit? On continue à parler de la vision. Parce que finalement, nous, on n'est pas aveugle, on est dans un dispositif de visible, donc de vision. Mais l'aveugle, ça nous aide. J'ai rencontré des aveugles aussi depuis un petit peu. J'essayais de m'approcher, pas facile, parce que les aveugles, ils te demandent qu'est-ce que tu les proposes comme artiste pour qu'ils veuillent rentrer dans le monde de l'invisible. Et moi, je n'ai pas trouvé l'articulation avec les aveugles d'expliquer que mon intérêt, c'est d'amener nous, qu'on peut voir dans les, au contraire dans son univers, mais pas pour essayer de pour se perdre, pour être dans la perte, mais comme on est des voyants, qu'est-ce que ça après les retours, on fait les tours et après qu'est-ce que ça peut changer à notre regard, à notre regard réel, tu vois.
Il faut dire, je crois que par rapport à ce blackout et le noir, il me semble que tu travailles beaucoup dans la nuit et dans le noir complet.
Depuis, vous avez vu suite à dernièrement, 2004, j'ai fait On cherche une danse. Après On cherche une danse, il y a eu un arrêt dans mon travail. Je suis allée à Strasbourg pendant 12 ans, je n'ai pas créé de choses. Là, j'ai commencé les laboratoires avec des jeunes interprètes. Et que j'essayais un peu de transmettre des choses, d'exercices. Et les exercices que j'avais besoin beaucoup de questionner, mais ça, dans la danse, énormément de chorégraphes, laisser fermer, c'est un outil qui existe dans la danse. Ça veut dire l'espace de non-visible pour les danses, pour les corps, c'est une pratique magnifique parce que c'est vraiment rentrer dans les perceptions. On va dire, non, on rentre dans l'espace de la perception. Et le corps, avant tout, c'est un espace de perception. C'est ça aussi, quand on parle de la danse, finalement, après, tu peux bouger, pas bouger, mais tu fais, ça que tu veux, mais c'est un espace de perception. Et avec Sol Aveugle, que j'avais la mémoire de revenir un peu à ma danse, ou à une danse, à mon corps, à l'activer un peu plus, parce que j'ai resté le corps un peu... Je l'avais laissé un peu... hors champ. Je l'avais laissé un peu hors champ et j'avais envie de tout mon histoire de perception et tout d'un coup tu te retrouves avec un corps que finalement il aperçoit d'abord et il sent d'abord et après il pense peut-être, non, mais d'abord il aperçoit. Et c'est ça, et là c'est, on retrouve l'essence de la danse. Mais je ne sais pas si je t'ai répondu, je me suis perdue un peu peut-être.
Non, justement sur cette descente dans la nuit en fait.
Sur cette descente dans la nuit, c'est l'espace de la perception, c'est vraiment le point de départ, et le corps dans l'état pur d'apercevoir. C'est le kilomètre zéro, tu vois, c'est vraiment le on n'a pas besoin de voir pour sentir. On n'a pas besoin de regarder pour exister, tu vois. Le corps, c'est déjà une préexistence, on va dire. Il y a quelque chose de l'ordre d'avant qui est fort. Et donc, cette pratique avec les aveugles, déjà, elle a commencé avec la caméra, on cherche une danse. Qu'on disait, on filme, mais on ne montre pas les images. On filme, mais on ne projette pas des images. C'est une caméra aveugle. Donc, déjà, j'ai commencé l'aveugle avec la caméra, un peu. Avant de moi. Et après, avec la danse son double que vous avez vu, on avait des exercices très simples et basiques, mais ça continuait à se mettre en pratique. Finalement, ça devient une pratique, pas seulement une idée. Ça veut dire que dans les studios, on travaille beaucoup. Moi, j'étais pendant des heures avec les fermés. Tu t'inventes des choses et tu fais. Le même que tu t'enlèves et tu manges, ou tu te promènes, tu es au studio, et tu t'obliges à être avec les yeux fermés. J'ai fait des pratiques d'écrire dans le noir, par exemple, dans l'obscurité, et qu'il n'y avait pas d'électricité à Fracametz. Il avait un lieu un peu propice à ça. Et j'ai fait ça dans le noir. Non, la nuit arrivait, j'étais là, et j'ai dit, allume-toi la lumière, regarde, tu vois. Et j'ai commencé à faire, tu t'inventes des choses, et j'ai dit, ça devient... une pratique, pas seulement une idée sur le plateau. C'est pas que je veux au plateau, j'ai fait un blackout. Non. Le blackout, il doit être dans ma vie, dans ma pratique, et on verra si j'y arrive au plateau avec le blackout. Parce que finalement, c'est ça, la conception d'un espace dans le plateau, c'est ça aussi qui me questionne beaucoup. Et la difficulté, parce que finalement, un plateau, c'est la contrainte. Comme Bernardo disait hier, malgré tout, on a des contraintes, des temporalités. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le grand piège qu'on a dans les arts vivants. Et la grande problématique qu'on a, je pense, c'est qu'on doit rentrer dans des formats de durée de choses, qu'on est obligé à couper. On est obligé pour donner un rythme, pour être dans les temporalité des spectateurs. Et je me dis, c'est une grande erreur, ça. C'est une grande erreur. Attends. C'est pas que c'est une grande erreur, je devrais m'exprimer mieux, mais il faut être très attentif parce que la temporalité, il y a. Hier, Dimitri l'a dit une chose hier, pour moi, magnifique. Vous vous rappelez quand il a parlé de l'état personnel? J'étais là et je n'écoutais pas ça dire. C'est la première fois que j'écoute un danseur dire ça. Je pense dans ça que je connais. C'est la première fois. Et j'ai dit, c'est très important qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que je pense que un des grands problématiques qu'on a dans les plateaux, c'est qu'on ne donne pas l'attention à l'état personnel de l'interprète, autant que chorographe, autant que directeur, autant que dans l'écriture chorographique, l'état de l'interprète, il l'oublie complètement. Qu'est-ce que c'est cet temps? Il faut voir qu'est-ce que c'est, mais c'est l'état de le corps dans l'espace. Et c'est ça le problème quand on dit. C'est ça quand je dis, c'est grave. C'est grave. On est en train de se mettre des pièges qui ne vont pas nous aider à avancer à niveau de la richesse ou à niveau de on ferme les possibilités trop rapidement pour de la nourriture, voilà. Parce que nous, on travaille pour la nourriture. Et si la nourriture, on la coupe parce qu'on doit quand même correspondre à des fonctionnements de marché. Tu vois, que je dis, oui, écoute, le marché doit être quand même un peu plus flexible, tu vois. Il devrait avancer avec la création. Le problème, c'est ça, que ça n'avance pas ensemble et ça va être toujours comme ça. Je suis très naïve, probablement, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça déjà, les années 60, 50, voilà. Mais la temporalité, tu vois, c'est temps personnel.
Dimitri, oui, il parlait sur une des premières violences du monde, c'est la violence spatio-temporelle. Le fait qu'en fait, il nous ait pas donné la possibilité d'être dans notre temps. Ce que tu disais là, c'est assez intéressant sur le fait que les artistes sont souvent soumis au temps du spectateur et jamais à leur propre temps.
J'imagine comment tout dans la vie, on pourrait penser qu'on peut travailler sur l'idée d'un négociateur, bien sûr. Il y a toujours, parce que moi, des fois, les gens pensent que je suis dans mon truc, tu vois, et que Olga, et je cherche la négociation avec le public aussi. C'est pas que je suis, tu vois, des gens, on te voit là dans ton truc, et je dis non, attends un moment. Pour être dans mon truc, je reste à la maison. Hein. Excusez-moi, je ne fais pas une vie comme ça pour être là comme ça. Tu vois, excusez-moi, non, on va se. Sauf après, je ne sais pas, j'y arrive pas peut-être, mais j'ai des préoccupations et j'essaye de voir comment équilibrer. On va dire qu'il faut un équilibre avec les spectateurs. Tu sais, par exemple, j'ai joué 2 fois les solos hein, ici. Mmh. Vous êtes venus jeudi. Il y a une difficulté pour moi dans ce solo. Voilà, c'est comment. Je peux être dans mon temps personnel par des moments sans vous oublier. Et donc, c'est très difficile parce que l'espace entre, c'est pas ton temps à toi, c'est une fabrication, peut-être qu'on doit voir comment. En plus, je suis actif et tu es passif. Donc il y a déjà différentes contraintes qu'on peut faire la liste, que déjà on n'est pas dans les mêmes. Et c'est ça que j'essaye à la fin. Quand j'ouvre les yeux et je vous regarde, je dis, bien sûr, j'ai fait mon trip, toi, regardé mon trip, mais peut-être on a la possibilité de se trouver dans les mêmes endroits à la fin. Et ça veut dire que c'est réussi malgré tout. Même si tu es extérieur à ce voyage, comment je peux arriver à que cette attention sur les regards de les spectateurs passifs, il existe. Et tout d'un coup, hier, je m'ai mis en contrainte, dès le début à la fin de la pièce, de dire, vous êtes là tout le temps avec moi. Vous êtes là tout le temps, tu vois. Vous êtes tout le temps avec moi, vous êtes tout le temps. Et j'étais sûre que j'ai dit, c'était attention, que c'est pas c'est une attention d'écoute. On parle de sources de perception, hein, mais d'écoute. N'importe quel son j'ai produit, ou quel geste j'ai produit, ou quelle apparition, disparition visuelle dans les dispositifs qu'on a parlé avant, même plus quand j'ai disparu dans les miroirs et dans l'écran, l'écoute sur vous, c'est encore plus grande. On parle de quelque chose un peu subjectif parce que la perception de cette écoute, c'est une écoute que c'est très fabriquée dans les présentes, dans l'ici maintenant. Elle est pas, tu vois, tu peux avoir une structure de dramaturgie de la pièce qui va tenir, mais cette écoute, tu la fabriques avec le public, tu la fabriques pas toute seule dans une répétition, tu vois, ou dans une. Et hier, c'était pour moi très différent à les premiers jours parce que j'ai eu les 20 sens de pas lâcher mon écoute avec vous, pas avec moi, avec vous, avec vous, avec vous. Et pas facile, parce que ça demande, ça peut un peu aussi basculer, c'est pas évident, mais à la fin de le spectacle, je suis finie, j'ai regardé, et c'était réussi pour moi. Bon, c'est pas pour le public, mais vraiment, on était dans ce regard et on a dit, on se trouve à la fin ensemble.
Peut-être une dernière question sur la question de la nudité. Parce que j'ai, par rapport aussi à ce que tu disais, disparition et apparition, et j'ai le sentiment que c'est pour toi en fait une question de commencer par s'habiller.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que j'avais vu une fois dans...
Ah oui, dans la suite.
Dans la suite, exactement.
Je me rappelle.
Où tu étais nue sur scène, et puis pour t'habiller, tu avais demandé au spectateur
de bon,
fermer les yeux, maintenant je vais m'habiller. Et dans, dans le spectacle Solo Ciego,
il
y a tout un mouvement qui va vers le nu,
oui.
Et une fois que tu es nue, tu dis maintenant on peut commencer, et tu t'habilles. Et j'ai le sentiment que la question de construire une histoire, c'est d'abord réussir à parvenir à une nudité, c'est-à-dire.
Il
n'y a rien, ou je ne sais pas, il y a juste, évidemment, juste le corps. Et là, maintenant, on peut commencer. On peut commencer.
C'est intéressant, cette question de la nudité. Tu sais, à niveau de la construction de l'espace, vous voyez que je fabrique la lumière moi-même, hein, et je décide comment elle est. Et c'est intéressant parce que j'ai fait un peu rewind. Hein. Cette chèvre, elle m'inquiétait beaucoup, même si elle est très belle. Cette chèvre dans le miroir, elle m'inquiétait beaucoup parce que j'ai quand même des préjugés, comme on a tous, j'imagine, de que c'était trop plastique. Et trop belle. Et moi, j'ai dit, mais Olga, tu as l'articulation lumière que tu travailles comme articulation dramaturgique aussi. Donc, à un moment donné, voilà, tu montes la lumière. Et même si je n'ai pas trop envie que les gens me voient, bon, j'ai déjà le corps, il est un peu plus vieilli, déjà tout ça, moins. Enfin, voilà, lâche, on va dire. Et donc, j'ai dit, Olga, bon, j'ai dit ça pour rigoler, la coquetterie, mais à un moment donné, j'ai dit, non, tu montes la lumière. Parce que cette chèvre, ça qui m'intéresse de cette chèvre, ce n'est pas la magie de la chèvre, c'est la réalité de la chèvre. La réalité de la chèvre, on doit l'enlever de toute cette atmosphère, tu vois, capable d'aller vers cette fabrication de l'image. Et c'est un peu comme aller, je ne sais pas si une autre image de la chèvre, un autre, mais à le corps. C'est donné, et donc il n'y a pas la masque, mais quand j'ai la masque dans la main et j'ai dit c'est un final, finalement je continue dans la chèvre, c'est une autre manière, j'ai laissé le monde, la chèvre elle est là avec moi, c'est pas nécessaire. Bon, tu vois, c'est un peu, on revient sur l'idée de le détournement de les choses, tu vois, on revient sur l'idée de. Et donc quand je dis ça pourrait être un final, c'est toujours curieux comment j'ai fait des énunciados.
Des énoncés.
C'est une chose qui me fascine beaucoup et que j'ai quand même, je crois, bon, c'est pas pour. Je sens que j'ai une capacité à faire des énoncés qui se répètent. C'est un peu comme des leitmotifs dans des autres pièces. Et c'est un peu réitératif. Des fois, je me dis, Olga, encore une fois, tu parles de. Je peux commencer, c'est un peu trop. Mais quelque part. J'essaie d'être rigoureux, de ne pas être non plus de systématique avec ça, mais quelque part, ça devient important pour moi pour resituer le regard de spectateur, pour resituer moi-même en dedans des dispositifs de narration. Et quelque part, je me permettre un peu à l'estil Olga Messard, revenir sur ces questions que peut-être vous avez vues dans d'autres pièces, mais qu'encore, ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas encore complètement exprimés, tu vois. Encore, il y a des sens que ce corps, on recommence. Et je me trouve nue, et j'ai ma vie, et j'ai dit, voilà, et tu fais une référence à la suite, et j'ai dit, voilà, l'histoire se répète, mais d'une autre manière, et j'ai l'impression que je ne sors des fois. J'ai l'impression avec mon travail que j'avance et des fois j'ai l'impression que je tourne à rond de la même chose un peu, mais que ça évolue de manière différente de le dire, tu vois. Donc on est toujours avec, c'est quand même des espaces, on va dire, familiers pour moi dans ma pratique, de ma, de ma manière de raconter, non? Et finalement, quand j'ai dit dans Solo Aveugle, ça pourrait être un final aussi, il y a impossible lecture liée à la guerre et à la mort que j'ai dit plus tard. Donc quelque part, les énunciats qui sont mobiles, ça veut dire que c'est ça que j'aime bien dans l'idée de l'énunciat dans l'écriture. Cet énunciat, tu peux le déplacer à n'importe quel moment de la pièce pour réapparaître. À n'importe quel moment. C'est comme, tu sais, dans les cartes, que tu as, et le poker. Je joue pas au poker. Bon, j'ai joué avec mon grand-père il y a longtemps, mais la carte que c'est comodine, la carte qui peut servir. Le joker. Et le joker, c'est très intéressant, non, dans les cartes, parce que qu'est-ce que c'est un joker? Le joker, là, tu peux l'utiliser, non? Claro, en plus, il peut te sauver la vie, non? Donc, déjà, c'est énorme, ça. Donc, tu vois, c'est en plus. Mais cette idée de l'énunciado comme joker, tu vois. Quand je dis ça, finalement, après, c'est la paradoxe. Finalement, tu as une écriture et tu les places là-bas et pas là-bas, là-bas. Mais la possibilité de que ça pourrait être là ou là, déjà, la possibilité, à moi, ça me nourrit beaucoup. Et je pense qu'à l'écriture aussi, même si à la fin, c'est beaucoup plus précis que j'aimerais être beaucoup plus dans l'aléatoire et que ça pourrait chaque jour être différent. Finalement, l'écriture, elle, c'est précis, elle est assez rigoureuse par rapport à... Elle se répète un peu, non? Et cette question de l'aléatoire, elle reste à la pratique intérieure de la pièce. Et après la pièce, elle est moins aléatoire que j'aimerais. Mon idéal serait que cette pièce, elle pourrait... Un jour, je commence et je dis, ça pourrait être la fin et ça commence comme ça. Et je pourrais changer cet énoncé et je pourrais faire la chèvre à la fin, ou je pourrais, tu vois, que je pourrais...
Réagencer,
ça serait magnifique, mais ça demande quand même de... Bon, je suis un peu loin encore de cette capacité de in situ. C'est un training, je pense aussi, de fabrication qui doit venir naturellement. C'est pas seulement concept. Moi, le concept, s'il est trop acquis, mais qu'est-ce qui passe après ici? Voilà, c'est que s'il est. Si, bon, encore, je suis plus lente. Ici, je suis rapide. Voilà, c'est ça. Ici, je suis rapide. Et ici, je suis lente. C'est ça que j'ai. Ma manière de. Oui, le corps, en tout cas, il a besoin plus de temps, toujours.
Merci Olga,
merci.
Pour ces quelques temps.
On a parlé combien de temps?
Alors, on a parlé 1 heure et 26 secondes.
Tout ce que j'aime, n'aime pas trop, les gens pensent que j'aime beaucoup parler. Et ça, c'est une image de moi que ça me, j'adore les gens qui parlent peu et je n'arrive pas à parler peu. Mais en tout cas, j'espère que c'était...
Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme.
Quand même, c'était quand même, j'ai fait un travail ici à Tours avec mon travail. C'est 4 pièces déjà. Hein.
Oui.
C'est quand même, c'est l'unique lieu en France, mais en France et en Espagne, dans toute mon histoire, je crois. Parce que normalement, bon, c'est pas évident que tu as quand même une fidélité ou une suivi. C'est quand même très intense. Je suis... Non, c'est important. C'est bien, je reste un peu triste que cette pièce, il y a eu seulement 80 personnes qui sont vues. J'aimerais revenir avec la pièce et le faire. Et ça, c'est le registre.
Oui. Merci
à vous.
C'était un entretien avec Olga Missa, chorégraphe. En introduction, un extrait de Blanche-Neige de Robert Walser sur la musique de Palix, String and String et Carlos Gardel. À bout de souffle, sur le net, en podcast, www.audioblog.arteradio.com/a-bout-souffle.